Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Nous sommes entrés dans la Semaine Sainte qui nous conduit vers la grande fête de Pâques, le cœur même de la foi chrétienne. Le pape François exhorte les chrétiens à un examen de conscience en ces jours où la vérité de la foi les interpelle. Le pape François qui a par ailleurs invité des séminaristes à bien réfléchir à leur vocation. En Terre Sainte, les fanfares scouts de Ramallah et de Beit Jala n'ont pas pu se rendre à Jérusalem dimanche pour assister aux fêtes religieuses dans la ville sainte. Les Palestiniens chrétiens de Cisjordanie et de Gaza ont besoin d'un permis d'entrée accordé par les autorités israéliennes. Maloula, reprise par le régime syrien, ce village, célèbre pour ses vestiges des premiers siècles du christianisme, était aux mains des rebelles depuis le mois de décembre. C'est aussi l'un des derniers villages dont les habitants parlent encore l'araméen, la langue du Christ. Nous en parlerons dans ce magazine. Nous sommes donc entrés dimanche dans la Semaine Sainte qui inclut plusieurs célébrations, un chemin très dense, jalonné de rituels et de spiritualité. À Rome, le pape François a entamé ce moment central de la vie liturgique en invitant les fidèles à sonder leur cœur et à se demander s'ils ressemblent plutôt à Judas qui trahit Jésus ou à Simon de Cyrène qui l'aide à porter sa croix, à Pilate qui s'en lave les mains et le laisse condamner ou aux femmes fidèles et courageuses. Antonino Gallofaro.
Pour le pape François, la Semaine Sainte est un temps de grâce qui nous invite à ouvrir les portes de notre cœur, de notre vie, de nos paroisses, pour sortir à la rencontre des autres. Joignons le geste à la parole, il sortira lui-même du Vatican le jeudi saint pour célébrer la messe de la scène du Seigneur auprès des personnes âgées et handicapées dans un centre de la Fondation Carlo Gnocchi. L'an dernier, fraîchement élu, il avait lavé les pieds de jeunes détenus, garçons et filles, dont deux de confession musulmane, dans une prison romaine. Vendredi soir, lors du chemin de croix au Colisée, les participants entendront les méditations d'un évêque de terrain. Bien connu pour le courage de ses prises de position contre le crime organisé, Monseigneur Brigantini a choisi d'évoquer les fléaux qu'il a côtoyés dans son ministère de pasteur dans le sud de l'Italie. Le long des 14 stations, il fera défiler la précarité de l'emploi, le chômage, la spéculation financière, les suicides des chefs d'entreprise, les plaies de la corruption et de l'usure, les cancers provoqués par les déchets toxiques, les prisons surpeuplées. La messe chrismale dans la matinée du jeudi saint et la célébration de la Passion dans l'après-midi du vendredi saint suivront le schéma habituel dans la basilique Saint-Pierre, tout comme la veillée pascale samedi soir à partir de 20h30. C'est enfin en plein air, sur la place Saint-Pierre, que le pape François célébrera la messe du jour de Pâques, une semaine avant de canoniser les papes Jean XXIII et Jean-Paul II, moment extraordinaire pour la vie de l'Église.
À Jérusalem, des milliers de catholiques, nettement moins nombreux que les années précédentes, ont pris part dimanche à la traditionnelle procession des rameaux du Mont des Oliviers jusqu'à la vieille ville. Il s'agissait en majorité de pèlerins étrangers. Seul un nombre limité de Palestiniens chrétiens ont pu en effet se joindre à la procession, principalement en raison du manque de laissez-passer accordé par les Israéliens. Les principales paroisses de Cisjordanie ont défilé sous des banderoles où l'on pouvait lire « Pape François, la Palestine veut la justice ». Un grand portrait du Saint-Père ornait une des portes de la vieille ville à Jérusalem-Est. Le pape François est attendu le mois prochain à Jérusalem pour son premier pèlerinage en Terre Sainte. Parallèlement, les festivités de la Pâque juive vont durer 8 jours jusqu'à lundi prochain. Des festivités endeuillées par une fusillade antisémite au Kansas. Comme chaque année, l'armée israélienne annonçait le bouclage des territoires palestiniens à partir de dimanche soir jusqu'à mardi minuit. Les Palestiniens ne pourront se rendre en Israël durant cette période, hormis pour les cas humanitaires et pour les personnes nécessitant un traitement médical. Pessa, la Pâque juive, est l'une des fêtes les plus importantes de la religion juive. Elle commémore la sortie d'Égypte des Hébreux, descendants d'Abraham, conduits par Moïse. Cyprien Viette.
En Égypte, les Hébreux étaient devenus esclaves. La fête de Pessah est devenue passage de la nuit à la lumière, de l'esclavage à la liberté, signe de la présence du Seigneur près de ceux qui le craignent. Elle commémore la naissance d'Israël en tant que peuple et plus généralement, elle célèbre la fin de l'asservissement de l'homme par l'homme. D'après la Haggadah, rituel récité les deux premiers soirs de Pessah, chaque juif a le devoir de se considérer comme s'il était sorti lui-même d'Égypte. Durant la fête, les fidèles consomment des galettes de pâte non levées. La Pâque juive est donc également appelée la fête des pains sans levain. Elle est citée en ces termes dans l'évangile de Matthieu que la liturgie chrétienne propose le dimanche des rameaux. La Pâque juive a d'ailleurs largement influencé la célébration chrétienne. Les chrétiens célèbrent le passage de la mort à la vie. Le Christ a sauvé l'homme du péché et l'a appelé à la vie éternelle. La Pâque juive et les Pâques chrétiennes se fêtent au même moment de l'année. La Pâque juive correspond à la pleine lune de printemps. La Pâque des chrétiens d'Occident a lieu, elle, le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, équinoxe de printemps. Un décalage existe avec les autres chrétiens, notamment orthodoxes, qui suivent le calendrier julien. Mais cette année, les églises d'Orient et d'Occident célébreront Pâques le même jour.
La ville chrétienne de Maloula, au nord de Damas, est aux mains de l'armée syrienne. Les forces fidèles au régime de Bachar el-Assad ont repris la ville désertée par les rebelles. Outre de nombreux couvents et églises, Maloula doit sa renommée à ses refuges datant des premiers siècles du christianisme. C'est aussi l'un des derniers villages dont les habitants parlent encore l'araméen, la langue du Christ. Au début du mois de décembre, les rebelles avaient pris un couvent abritant 40 religieuses et avaient enlevé 12 d'entre elles, dont la mère supérieure. Cette prise d'otage avait provoqué l'émotion de l'Église et de la communauté internationale. Les moniales ont été libérées au début du mois de mars en échange de la libération de 150 prisonnières détenues par le régime de Damas. Cette opération sans combat s'inscrit dans le cadre de l'offensive lancée par l'armée du régime syrien dans la région. C'est ce que nous explique Frédéric Pichon, historien spécialiste de la Syrie, en particulier de Maloula.
En réalité, il ne s'agit pas tellement d'une reprise, mais plutôt d'un retrait de la part des rebelles qui avaient diminué leur présence dans le village ces jours derniers et qui sont partis définitivement hier.
Vous êtes entretenu au téléphone avec le prêtre de Maloula. Que sont devenus les chrétiens de la ville ?
Alors en fait, les chrétiens de la ville, ils avaient fui dès la prise en septembre par les rebelles, si vous voulez. Ils ont massivement fui, certains ont été tués, et ils ont massivement fui à Damas, sont réfugiés dans les institutions ecclésiales de Damas, notamment dans le quartier de Bab Chagri, dans le quartier chrétien, où ce prêtre et d'autres ont justement continué en quelque sorte leur ministère en s'occupant de ces populations un peu traumatisées. Le problème qui s'en est suivi, au-delà de cela, c'est vraiment une catastrophe du point de vue du patrimoine, puisque l'une des églises les plus anciennes du monde probablement, qui se trouve à Maloula, le couvent Saint-Serge, qui est un couvent grec-catholique, a été non pas pillé en fait. On aurait presque souhaité que les icônes magnifiques soient pillées parce qu'on aurait pu les retrouver. Non, elles ont été détruites, lacérées, cassées en plusieurs morceaux, piétinées, brûlées par des rebelles. Donc c'est quelque chose d'assez triste, je ne suis pas sûr que la reprise de la ville soit... C'est une bonne nouvelle pour les chrétiens locaux, mais je crois qu'il va falloir qu'ils pansent leurs plaies, elles sont psychologiques et elles sont aussi patrimoniales.
L'historien Frédéric Pichon, spécialiste de la Syrie, interrogé par Hélène Destombes. Il n'y a pas de place dans l'Église pour des ministres médiocres et opportunistes qui utilisent le peuple de Dieu à leur avantage. C'est l'avertissement lancé ce lundi matin par le pape François à un groupe de séminaristes italiens. Malheur aux pasteurs qui ne pèsent qu'eux-mêmes, a-t-il lancé en citant l'Écriture sainte. Jean-Baptiste Cocagne.
La semaine dernière, le Saint-Père s'était adressé à la communauté de l'université pontificale grégorienne et des institutions pontifico-bibliques orientales, trois institutions dirigées par les jésuites. Ce lundi, il a reçu les membres d'un collège pontifical, le Leoniano, fondé par Léon XIII en 1897 et confié au moment de sa création à la Compagnie de Jésus. Aujourd'hui, ce collège, destiné aux séminaristes du sud du Latium, est dirigé par le clergé diocésain. Pour rencontrer le Saint-Père, les étudiants de ce séminaire régional avaient fait le trajet à pied de la ville d'Anani jusqu'à Rome, soit une soixantaine de kilomètres, pour symboliser le chemin de formation à parcourir avec enthousiasme et persévérance. Un chemin exigeant qu'il faut vivre dans un climat évangélique, a averti le pape François, en invitant les futurs prêtres à réfléchir sérieusement sur leur avenir. Chers séminaristes, vous n'êtes pas en train de vous préparer à exercer un métier, à devenir les fonctionnaires d'une entreprise ou d'un organisme bureaucratique. Je vous en prie, ne tombez pas dans ce piège. Vous devez devenir des pasteurs à l'image de Jésus. Et si vous n'êtes pas disposé à suivre cette voie, ayez le courage de chercher un autre chemin. Il y a de nombreuses manières dans l'Église d'offrir un témoignage chrétien.
Ci sono molti modi nella Chiesa di dare testimonianza cristiana.
Pour le souverain pontife, cela vaut pour tous les séminaires qui doivent transformer des projets vocationnels en des réalités apostoliques fécondes dans un climat de prière, d'études et de fraternité.
Le pape François a fait parvenir un télégramme de condoléances à l'évêque de Valparaiso, le port chilien ravagé par un gigantesque incendie. Ce sinistre, le pire qu'ait connu cette ville côtière classée au patrimoine mondial de l'humanité, a fait plusieurs victimes et provoqué une évacuation massive de milliers d'habitants. Le Saint-Père exprime sa proximité spirituelle avec tous les habitants de la ville. Il prie pour les victimes et partage la douleur de ceux qui ont perdu des êtres chers et leurs biens. Le pape François assure de ses prières les équipes de secours et exhorte la population au courage et à la solidarité. L'incendie a détruit 850 hectares, 2000 habitations et fait quelques 8000 sinistrés. Plusieurs quartiers de la célèbre cité portuaire ont été particulièrement touchés par l'incendie qui a affecté surtout les zones les plus défavorisées de la ville où les habitations sont le plus souvent en bois. Des sinistrés ont trouvé refuge dans les églises. Caritas Chili leur vient en aide. L'archevêque de Santiago du Chili a évoqué cette tragédie dimanche en inaugurant la Semaine Sainte. Une tragédie qui intervient quelques jours après un séisme meurtrier dans le nord du pays. Le cardinal de Santiago invite les fidèles à vivre Pâques avec encore plus d'intensité et sous le signe de la solidarité. Témoin de la radicalité évangélique, c'était le thème du 27e chapitre général des Salésiens qui s'est achevé samedi à Rome après 40 jours de travaux. Un chapitre marqué entre autres par l'élection du nouveau recteur majeur, le père Angel Fernandez Artimé, espagnol, et le 10e successeur de Don Bosco. Parmi les participants à ce chapitre général, le père Jean-Claude Ngoy, provincial d'Afrique centrale, nous explique la mission des Salésiens au Congo avec les jeunes des rues.
Nous avons des centres professionnels, nous avons des écoles primaires, des collèges, et aussi des écoles professionnelles, techniques, disons, et des paroisses. Il y a aussi une autre partie d'œuvres que nous avons, c'est-à-dire nous accueillons les enfants de la rue. Vous voyez, c'est pratiquement là que nous touchons la sensibilité de la misère, vraiment, donc au Congo. C'est-à-dire, Don Bosco, comme Don Bosco lui-même nous l'avait dit, il faut aller vers les jeunes, surtout ceux qui n'ont pas eu de possibilités, ceux qui ont eu moins. Alors, nous avons des centres qui s'occupent justement de ces jeunes de la rue et petit à petit, nous leur donnons justement la chance d'apprendre des métiers et donc la chance de réussir leur vie. Et je dois dire que c'est une mission qui n'est pas très facile parce que ça demande beaucoup de moyens, ça demande beaucoup d'interventions, ça demande beaucoup de patience, mais surtout beaucoup d'amour pour les pauvres et les petits.
Comment vous faites ? Vous allez à leur rencontre dans la rue ? Vous repérez ces jeunes ou bien c'est eux qui viennent vous voir parce qu'ils ont entendu parler de ce que vous faites, comment ça se passe?
Deux choses, donc deux moments, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle la maison d'accueil. Et là, il y a des confrères, évidemment, qui s'en occupent et donc qui cherchent des enfants qui sont dans la rue. Ils font même ce qu'on appelle l'apostolat de la nuit. Et donc, ils vont voir là où les enfants, les jeunes traînent et ils vont les chercher. Et d'autre part, il y a beaucoup d'enfants qui viennent d'autres régions qui apprennent que voilà, là-bas, chez les Salésiens, on accueille justement des enfants de la rue. Et il y en a qui s'amènent. Donc, je dirais, plus de 80% viennent d'autres régions. Donc, quand ils apprennent que voilà, là, on est bien accueillis, on trouve un endroit pour dormir, quelque chose à manger, et donc, alors, ils s'amènent. Alors, donc, nous avons, c'est la maison Bakanjaville, donc, qui est un centre, une maison d'accueil. Et puis, quand ils passent quelques temps dans cette structure d'accueil, on les amène à Bakanja Centre. Parce qu'à Bakanja Centre, évidemment, là, ils sont orientés pour étudier déjà, apprendre à étudier. Il y en a qui n'ont jamais été sur le banc de l'école. On leur donne la chance, justement, d'apprendre quelque chose petit à petit.
Concernant l'apostolat de la nuit, comment s'adresse-t-on à ces jeunes comme ça que vous rencontrez dans les rues?
Très facilement, les enfants viennent vers nous, ils rencontrent les Salésiens sans problème, et puis ils parlent. Après, bon, on les invite pour venir, pour ne pas rester donc dans la rue. On leur explique évidemment ce que cela comporte comme menace. Ouais, comme danger. Quand vous restez dans la rue, comme ça, la nuit, donc n'importe qui peut venir pour vous faire du mal. Ou si vous êtes à la maison, vous êtes chez nous, bon, vous êtes sécurisé. On leur donne toutes ces raisons-là pour, n'est-ce pas, leur donner un peu de confiance. Et alors, bon, ils abandonnent la rue.
Tout est basé sur la parole, sur l'échange verbal.
Ah oui, la première rencontre est basée justement sur l'échange, la parole.
Quand vous faites comme ça ces rondes de nuit, comment ça se passe? Vous êtes par deux, vous êtes par trois, vous êtes tout seul, vous êtes habillé en prêtre, vous êtes reconnaissable, ou bien vous y allez comme ça en laïc?
Non, on y va en laïc, puis bon, pas jamais seul évidemment, parce que bon, la nuit c'est la nuit, on risque, hein, il faut éviter des risques. On y va, donc on n'est pas habillé en prêtre. Non, un laïc, et puis bon, on y va, on met à deux, à trois, pour faire cet apostolat donc nocturne.
Un autre participant au chapitre général, le père Sylvain Ducange, provincial d'Haïti, revient sur la situation des jeunes et leur formation suite au tremblement de terre de 2010 qui a détruit de nombreuses écoles et a fait 220 000 morts et 300 000 blessés.
Il y a beaucoup d'enfants orphelins qui sont dans la rue, donc nous avons trois centres qui les accueillent. Nous avons des internats aussi qui accueillent des jeunes qui ont des difficultés économiques. Ce sont des jeunes surtout qui ont déjà terminé un certain cycle d'études et qui font la formation professionnelle, particulièrement les écoles techniques de formation professionnelle, école technique agricole, et même une école des infirmières nous avons dans le pays pour pouvoir aider ce pays et les jeunes à émerger.
Comment affronter ce problème des enfants des rues?
L'objectif final, ce n'est pas seulement s'occuper de l'enfant des rues, c'est l'objectif réel, c'est aider ce jeune non seulement à sortir de la rue, mais à s'insérer dans la société et surtout, avant tout, une intégration familiale. Donc c'est pourquoi nous allons les chercher dans la rue, là où ils sont. Nous avons une première étape qui s'appelle l'amitié. Là où ils sont, on joue avec eux, on leur parle et on les invite chez nous. Ça, c'est la méthode salésienne. Ça s'appelle la cour. La cour, c'est le lieu où l'on se recrée, le lieu où on se retrouve. Donc là, ils commencent à avoir une certaine base, une certaine formation avec nous et de façon informelle jusqu'à ce qu'ils veulent faire la deuxième étape qui est celle de la maison. Donc ceux qui veulent viennent avec nous, c'est-à-dire on les accompagne jusqu'à la maison. Ils viennent et là, pour 3, 4 ou 5 ans, là, ils apprennent un métier. Et on va dans la famille avec eux, il y a une réinsertion familiale, une réintégration familiale. Et là, s'il y a eu des blessures au niveau de la famille, il faut les accompagner psychologiquement aussi pour qu'ils puissent retourner à la famille. Et même après, leur donner les moyens ou bien leur faciliter pour pouvoir se prendre en charge économiquement même. Donc ça, c'est tout un travail de longue haleine qui dure entre 4 et 5 ans pour pouvoir accompagner cet enfant et ce jeune à l'âge adulte et pour qu'ils puissent aussi pouvoir se tenir debout dans cette société où réellement donc, les problèmes sont graves.
La population est majoritairement, très majoritairement même jeune en Haïti. Vu le défi que cela représente d'un point de vue humain, d'un point de vue matériel, est-ce que vous considérez qu'il y a cette collaboration d'entraide et surtout de moyens mis à disposition pour relever ce défi, aussi bien de la part des associations, des organisations non gouvernementales que de l'État haïtien?
À ce niveau-là, je pense qu'il y a quelque chose qui se fait, mais il y a beaucoup à faire. Il faut partir d'un projet global. Effectivement, le premier qui devrait avoir un projet d'éducation bien élaboré et systématique, c'est l'État. Ensuite, les organisations viendraient au secours. Le problème, c'est que certaines organisations veulent travailler tout seuls. Donc, ils ne veulent pas savoir ni de l'État, ni de l'Église, ou bien de notre organisme. Ils proposent eux-mêmes. Tandis que moi, je pense qu'il faut partir du terrain avec les gens qui sont sur le terrain pour pouvoir toucher réellement les vrais besoins et les vrais défis de cette jeunesse, qui ne sont pas des défis ordinaires, mais ce sont des défis réels. Il faut connaître un petit peu le terrain, connaître la réalité pour pouvoir toucher le problème éducatif du droit et amener le jeune à une croissance, réellement une croissance intégrale. Nous autres, comme ça, les jeunes, sommes en train de le faire, puisque nous avons mis sur pied une structure déjà avant le tremblement de terre. On avait notre bureau de planification et de développement qui touche tous ces points-là, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec la jeunesse et pour la jeunesse, mais avec une perspective de croissance. Croissance intégrale, humaine, spirituelle et sociale, bien sûr. En général, donc, il y a une volonté, que ce soit du côté de l'État, que ce soit du côté des organisations, mais il faut mettre les ressources ensemble et dans un projet réel, un projet global, pour pouvoir répondre aux vrais défis, aux défis réels du pays.
Le provincial des Salésiens d'Haïti et le provincial des Salésiens d'Afrique centrale étaient interrogés par Xavier Sartre. En Belgique, JOC ne veut plus dire jeunesse ouvrière chrétienne, mais jeune organisé combatif. À l'occasion de son assemblée générale extraordinaire, la JOC a décidé à 80% des voix de changer la signification des initiales de son nom. Après un processus de réflexion entamé il y a 2 ans sur son identité et un débat interne sous forme de questionnaires et de rencontres avec les militants historiques, le mouvement d'action catholique s'est choisi un nouveau nom, plus en phase avec ses combats actuels. Le Conseil national du mouvement gouvernement a estimé que son nom d'origine ne correspondait plus à la réalité. Fondée en 1925 par un prêtre belge, Joseph Léon Cardane, dont la procédure en béatification a été ouverte en janvier dernier, la JOC voulait aider les jeunes ouvriers à faire le lien entre leur quotidien et le message de l'Évangile. Mais une grande partie des jeunes ne se retrouvait plus dans les termes chrétiens et ouvriers. En 2012, le scoutisme belge avait supprimé la référence à Dieu de sa loi scout. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Mais je vous invite à nous retrouver également sur Internet, radiovaticana.va, ainsi que sur Facebook, Radio Vatican, en français.